RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. C'est un format inhabituel que nous vous convions pour cette émission des Neveux de René, une émission consacrée à la philosophie, un rendez-vous hebdomadaire avec la philosophie. Mais contrairement aux émissions précédentes où nous étudions des textes, ici nous souhaitons vous faire partager une conférence que l'on trouve sur l'internet, sur le site philosophie.tv, alors philosophie avec un S. Et cette conférence est faite par Daniel Moise, alors son nom s'écrit M-O-Y-S-E. Daniel Moise est enseignante de philosophie en région parisienne depuis plus de 30 ans. Elle est chercheure associée à l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Et elle tient une chronique intitulée « Éthique et finitude » dans le journal La Croix. Et ces chroniques sont développées sous forme de conférences filmées sur le site donc philosophie.tv. Et nous souhaitons vous faire écouter l'une de ces chroniques, ou du moins les premières minutes, les 20 premières minutes de l'une de ces chroniques. Alors, le thème de cette chronique concerne la question du terrorisme, le phénomène du terrorisme qui occupe évidemment une place prépondérante non seulement dans les médias mais aussi dans nos vies. Et cette chronique vient prendre place dans tout un ensemble d'autres chroniques. Daniel Moise s'intéresse à des sujets très divers. Alors par exemple sur le site philosophie.tv, sa dernière intervention concerne la question de la parole qui peut être étouffée, et elle prend pour cela notamment le film de Xavier Dolan qui s'appelle « Juste la fin du monde ». Daniel Moise travaille sur les questions donc dites d'éthique, et elle a aussi fait des chroniques sur la question de la fin de vie, sur l'élevage industriel, sur la question de la pédagogie. C'est quelqu'un qui est extrêmement riche, ses chroniques sont très vivantes, alors ça va s'entendre à la radio, mais la voir aussi devant la caméra est aussi quelque chose de très intéressant. Et elle a aussi publié donc un livre qui s'appelle « Bien-être ». Bien-être, bien mourir. Donc bien-être au début, c'est la naissance. Bien-être, bien-être, l'être et bien mourir. Propos sur l'eugénisme et l'euthanasie aux éditions RS en 2001. Handicap pour une révolution du regard en 2010. Et à la rencontre de Martin Heidegger en 2013. Alors, la question qui va être posée dans cette chronique concerne donc la question du terrorisme, notamment avec le terrorisme de Daesh, mais pas seulement, le terrorisme des groupes islamistes djihadistes, mais pas seulement ça. Et ce qui nous a paru intéressant dans cette chronique, c'est la tentative de situer ce phénomène du terrorisme non pas sur un plan économique, sociologique, géopolitique, mais sur le plan de la métaphysique. Alors, ce plan-là n'annule pas, bien sûr, toutes les autres connaissances scientifiques, puisque bon, l'histoire, l'économie, la sociologie, la géopolitique se présentent comme des sciences. Mais la question serait plutôt, qu'est-ce que la métaphysique peut avoir à nous dire ? Alors, simplement, dans les 20 premières minutes que vous allez entendre, ce n'est qu'une espèce d'entrée en matière. Alors, Daniel Moise va faire des précisions, mais nous invitons les auditeurs et les auditrices à aller voir sur le site. Donc, je crois que cette chronique sera en accès libre pendant quelques semaines encore. Et écouter comment, à partir de cette analyse, on peut comprendre l'histoire de l'Occident, notamment la philosophie en tant que volonté de puissance. Et donc, Daniel Moise ramène ce phénomène à quelque chose qui peut être compris avec une analyse philosophique de Nietzsche, de Heidegger notamment, mais pas seulement, notamment aussi Leibniz et le principe de raison, ce qui va nous occuper dans les prochaines émissions des Neveux de René. Eh bien, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à toutes bonne écoute et rendez-vous les semaines prochaines pour discuter de toutes ces questions.
Bonjour. C'est une phrase entendue à plusieurs reprises à la radio, à la télévision, et puis relue dans toute sa précision, ou au moins dans une de ses versions, qui m'amène à vous aujourd'hui. Je vous lis cette phrase dans la version qu'en restitue Jean Birnbaum dans son livre « Un silence religieux », où il parle du phénomène du terrorisme. Cette phrase est la suivante. Donc, en 1996, dans un texte où il défiait William Cohen, alors secrétaire d'État à la défense de Bill Clinton, Ben Laden vanta en ces termes la principale qualité de ses combattants. « Je t'affirme, William, que ces jeunes-là aiment autant la mort que vous aimez la vie. » Un an plus tard sur CNN, interviewé par la chaîne de télévision, le chef d'Al-Qaïda insista à nouveau « Mourir sur la voie de Dieu est un honneur souhaité par ceux de ma communauté qui luttent. Nous aimons la mort autant que vous aimez la vie. Nous ne craignons rien, nous espérons une telle mort. » Et puis enfin, encore une version, donc c'est manifestement, étant donné que c'est une phrase qui est répétée par les jeunes gens qui se réfèrent à ce qu'on appelle le djihadisme, j'en dirai un mot sur ce mot de djihadisme ensuite, voilà ce que dit l'un des terroristes avant d'être abattu par les forces de police. Je ne donne pas son nom, je souscris à peu près à la revendication d'un jeune homme qui dit on leur fait trop de publicité, il ne faudrait pas donner leur nom. Je ne sais pas sur le plan historique c'est tout à fait possible, mais au moins économisons-nous et ne mentionnons pas ce jeune homme. Et voilà ce qu'il disait. Je sais que vous risquez de m'abattre, c'est un risque que je prends. Donc, voilà, sachez qu'en face de vous, vous avez un homme qui n'a pas peur de la mort. Moi, j'aime la mort, je l'aime comme vous, vous aimez la vie. C'est une phrase donc qu'on a entendue multiples fois des médias nous dire que les terroristes disent qu'ils aiment autant la mort que nous les Occidentaux par conséquent, nous aimerions la vie. La phrase est extrêmement étrange parce que elle part de deux présupposés. D'abord, vous voyez qu'il y a une espèce de confusion entre la fascination pour la mort et pour le courage. Donc, vous voyez, je relis la phrase, la phrase de ce jeune homme. « Sachez qu'en face de vous, vous avez un homme qui n'a pas peur de la mort. » On aurait envie de dire « pas mal ». C'est pas mal, c'est intéressant. Effectivement, ça peut être un signe de courage. Et tout de suite, il y a une distorsion. « Moi, la mort, je l'aime comme vous, vous aimez la vie. » Vous voyez, d'abord, le premier point de cette phrase, c'est la confusion entre le courage et la fascination pour la mort. Et on va essayer de réfléchir déjà à cette confusion. Et puis ensuite, évidemment, ce qu'il y a d'incroyablement étonnant, et ce qui est étonnant, c'est que la phrase soit répercutée sans jamais aucun commentaire, aucune distance par rapport à elle. Ce que semble revendiquer cette phrase, c'est une espèce de place de champion toute catégorie, de nihiliste en chef, de destructeur en chef, comme si finalement le djihadisme, encore une fois, je vais dire un mot sur ce terme-là, comme si le djihadisme s'était mis à monopoliser les forces de destruction, les forces de dévastation de notre monde. Donc la question que je vais poser, c'est celle de savoir si non seulement ça n'est pas une opposition tout à fait caricaturale qui est faite ici entre un Occident qui serait supposé être amoureux de la vie et un Orient arabo-musulman qui aurait monopolisé les forces de destruction du monde, mais si, de fait, ça n'est pas complètement faux. Et la question qui m'anime, c'est celle de savoir si finalement ce terrorisme arabo-musulman n'est pas qu'un des visages ultimes, ou en tout cas dernier en date, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, du phénomène du nihilisme. Voilà la question que je vais essayer de développer avec vous. Alors tout d'abord, arrêtons-nous. Alors avant non, de commencer, je voulais tout de même m'arrêter à l'emploi systématique dans les médias du terme de djihadisme. Il est tout de même très important de ne pas oublier que le phénomène du djihad est répercuté dans les médias comme la haine de l'autre, finalement la lutte contre l'autre mécréant et qu'on va convertir ou même complètement, purement et simplement détruire, alors qu'il ne faut pas oublier que l'islam lui-même distingue deux formes de djihad, un djihad dont la première ou dont la plus grande dimension est une lutte contre soi-même, hein, une lutte contre soi-même pour rejoindre Dieu, c'est-à-dire une lutte contre soi-même et contre tous les éléments du soi-même qui nous séparent de Dieu. Donc c'est quand même très impressionnant de voir que jamais dans les médias n'est mentionné cet aspect-là, hein, du djihad. Donc, vous avez bien compris que je voulais faire cette petite mise au point avant de commencer à parler, parce que si moi-même j'emploie le terme de djihadisme pour désigner les forces de dévastation, sachez que j'ai bien en mémoire le fait que c'est une réduction considérable, hein, et même une déformation du sens du mot djihad, qui veut, dans son sens le plus grand, dire la lutte contre soi-même et contre les éléments de ce qui nous sépare de Dieu. Alors l'orgueil, la vanité, etc., tous les éléments, hein, qui, dans une vie humaine, hein, peuvent séparer du divin. C'était cela ma petite mise au point. Donc, revenons à notre phrase. Moi, j'aime la mort, je l'aime comme vous, vous aimez la vie. Donc, premier point, confusion entre le courage et la fascination pour la mort. Effectivement, il peut y avoir dans le phénomène du fanatisme quelque chose qui relève du courage. Alain, dont nous allons lire tout à l'heure un texte, le dit bien. Il y a quelque chose, on dit ils sont lâches. Voir, est-ce que tout le monde serait capable de sacrifier sa vie de la façon la plus violente qui soit, pour une cause évidemment plus que discutable, mais tout de même. Donc, le djihadiste, au sens ordinaire du terme, le vit bien, lui, comme un acte de courage. Quelque chose qui est plus précieux que sa vie, c'est de défendre une conviction, le sentiment, hein, de se mettre au service d'une cause qui à lui lui semble juste, etc., etc. Autrement dit, il y a dans le vécu, comme on dit, de la personne, hein, qui s'engage dans cette action violente pour défendre une cause donnée, le sentiment qu'il est courageux. Or, évidemment, c'est très important. Vous voyez, c'est extrêmement important, cette question-là. Elle est tout à fait décisive quant à savoir quelle est la position juste que nous devons avoir vis-à-vis de la mort. De notre position vis-à-vis de la mort dépend complètement que nous ayons une vie juste ou non. J'en avais déjà parlé en citant Montaigne, à qui je vais revenir, et chez Montaigne, il y a bien l'idée tout à fait développée et magnifiquement développée d'un certain rapport chevaleresque à la mort. La mort ne me fait pas peur. Le problème, c'est le basculement de « la mort ne me fait pas peur » à « je vais au-devant de la mort ». En réalité, Montaigne dit bien qu'il faut s'accoutumer à la mort, apprivoiser ce qu'elle peut avoir pour nous de dérangeant, il ne dit pas « suicidez-vous ». Vous voyez, le basculement très simple, très facile, hein, du courage au fanatisme. Je vous relis quelques passages de Montaigne parce que je crois qu'ils sont très très éclairants pour bien mettre en lumière cette différence qui est tout à fait décisive dans la conduite même de nos vies. Donc, Montaigne, rappelez-vous parce que c'est un texte que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais je n'ai pas trouvé autre chose, et de toute façon, ce n'est jamais une difficulté de relire les grands textes qui nous parlent toujours différemment à chaque fois qu'on les lit, et voilà ce que dit Montaigne à propos de la mort. « Si c'était ennemi qui se peut éviter, je conseillerais d'emprunter les armes de la couardise. Mais puisqu'il ne se peut, puisqu'il vous attrape fuyant et poltron, aussi bien qu'honnête homme, et que nulle trempe de cuirasse vous couvre, apprenons à le soutenir de pied ferme. » Donc, vous voyez, il y a bien cet aspect d'affrontement chevaleresque de la mort. Et à le combattre, ajoute Montaigne. Et pour commencer à lui ôter son plus grand avantage contre nous, prenons voie toute contraire à la commune. Il a effectivement dénoncé d'abord l'indifférence dans laquelle les êtres humains sont généralement vis-à-vis de la mort. Ôtons-lui l'étrangeté, pratiquons-le, accoutumons-le, n'ayons rien si souvent en la tête que la mort. À tous instants, représentons-la à notre imagination et en tout visage, au broncher d'un cheval, à la chute d'une tuile, à la moindre piqûre d'épingle, remâchons soudain, eh bien, quand ce serait la mort même. Et là-dessus, raidissons-nous et efforçons-nous. Il est incertain où la mort nous attende, attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Le savoir mourir nous affranchit de toute suggestion et contrainte. Autrement dit, il y va d'une vie bien conduite ou mal conduite que de savoir si oui ou non nous avons peur de la mort. Or, nous en avons tous peur, à vrai dire. Et c'est bien pourquoi Montaigne, loin de prétendre que lui-même n'a pas peur de la mort, nous invite à essayer de l'apprivoiser. Tel est le sens du courage, c'est-à-dire non pas de faire comme si la mort n'existait pas, ça c'est un défilement qui est effectivement un signe de lâcheté, mais essayons d'apprivoiser ce qui, en la mort, nous inquiète le plus, à savoir sa dimension inconnue et sa dimension inattendue. Voilà pour le vrai courage vis-à-vis de la mort. Et il est très très clair que de ce courage dépend notre liberté. Il est très certain en effet qu'il peut arriver que dans certaines circonstances, nous soyons, aurons-nous le courage de le faire ou pas, ça c'est une autre affaire, il soit nécessaire de risquer la mort pour défendre quelque chose qui nous tient à cœur. Mais où passe la frontière entre ce courage qui est un signe éminent de liberté et le moment où on bascule dans le fanatisme? Prenons un exemple très précis de personne qui a affronté la mort et qui y a justement laissé sa propre vie. Pensons à Martin Luther King. Dans une interview extrêmement touchante, bouleversante même, étant donné la suite qu'on connaît, Luther King dit « J'aimerais bien avoir une vie longue et tranquille. J'aimerais bien avoir une vie heureuse en famille. J'aimerais bien pouvoir continuer ma vie. Mais peut-être que ce n'est pas mon destin. » Voilà le courage vis-à-vis de la mort. Il n'a pas dit « Je suis fasciné par la mort et j'aime la mort. » Il a dit « J'aime la vie, mais au nom de cette vie, pour que celle-ci soit aussi juste et aussi libre que j'imagine et que je pense qu'elle doit être, je vais risquer la mort. » En revanche, chez nos fanatiques, puisque c'est de bien de cela qu'il s'agit, on voit bien le basculement entre « Je n'ai pas peur de la mort », là on a envie de dire « Bravo !» Il y a quand même quelque chose, hein, même si on est tout à fait terrifié par le phénomène, quand même, vous avez devant vous un homme qui n'a pas peur de la mort, et de fait, il est face à des flingues, on va le tuer. Mais moi, la mort, je l'aime comme vous, vous aimez la vie. Et c'est là qu'on a complètement changé de décor, si j'ose dire, complètement changé de paysage. Moi, la mort, je l'aime comme vous, vous aimez la vie, on est passé du courage au fanatisme. C'est très important de comprendre ça, parce qu'en réalité, la vie humaine se tient toujours sur une ligne de crête. Entre la vie la plus accomplie et le basculement dans l'abîme, il n'y a souvent qu'un cheveu. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote fait du juste milieu, non pas une médiocre moyenne, mais un véritable point de perfection. Et quand François Fédier parle de ce juste milieu, il fait un dessin que je crois il avait lui-même hérité de son professeur, on n'invente évidemment jamais rien, il dessine une ligne, une montée comme ça et une redescente. Le point de perfection du juste milieu, il est là. Autrement dit, je peux basculer d'un côté ou de l'autre de façon extrêmement facile et d'un instant à l'autre. Prenons la question du courage dans l'Éthique à Nicomaque. Aristote dit bien que le courage, c'est le juste milieu entre la lâcheté et la témérité. Autrement dit, ces fanatiques qui pensent être courageux ont, alors là, été bien plus loin, si j'ose dire, que la témérité, parce que justement, dans les pages ultérieures, Aristote dit bien, à tout prendre, vaut quand même mieux la témérité que la lâcheté. Mais donc eux, pour se prémunir, on a envie de dire, contre la lâcheté, ils vont à l'extrême opposé. C'est-à-dire qu'ils ont lâché depuis belle lurette, si j'ose dire, le vrai courage, qui a effectivement quelque chose à voir avec la position que nous avons vis-à-vis de la mort, une capacité à tenir ferme vis-à-vis d'elle, mais qui n'a rien à voir avec ni le suicide, ni le meurtre, évidemment. Donc vous voyez que nous sommes sur une ligne de crête. Je prends un texte d'Alain, qui est absolument passionnant, parce qu'il montre bien ça. Comment il peut y avoir une espèce de respect, une manière d'être un peu impressionné par cette capacité de sacrifier sa vie à une cause, on peut dire les choses tout simplement comme ça. Et lorsque je parlais de Martin Luther King tout à l'heure, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il y a quelque chose d'absolument impressionnant, d'admirable, qui est capable de dire, mais de plus encore de faire cela, de dire « oui, j'aime la vie, mais je vais peut-être quand même renoncer à cette vie s'il me paraît que pour continuer à vivre, il y aurait trop de beauté de la vie à sacrifier. » Donc là, c'est véritablement le courage. Je vous lis, Alain, les propos. « On a vu des fanatiques en tous les temps, et sans doute honorables à leurs propres yeux. » Alors, je ferai remarquer que Alain, qui écrit ce texte dans les années... je n'ai pas exactement la date, mais dans les années 20, un peu avant, certainement. « On a vu des fanatiques en tous les temps. » Ce qui est une manière de dire que, évidemment, il ne parle pas du djihadisme dans le sens habituel du mot, mais qu'il parle du fanatisme en général. On a vu des fanatiques en tous les temps, et oui, bien sûr, et sans doute honorables à leurs propres yeux, bien sûr. Ça, c'est la phrase de Socrate. Nul n'est méchant volontairement, ou nul, s'il voyait le mal qu'il fait, ne le ferait peut-être. Donc forcément honorables à leurs propres yeux. Ces crimes sont la suite d'une idée, religion, justice, liberté. Vous voyez, c'est là que ça se complique. Parce que je peux effectivement, au nom de la liberté, prendre les armes éventuellement, alors que j'ai passé depuis longtemps non seulement la frontière du juste milieu, mais que je me suis égarée complètement à l'extrême opposé du courage. Il y a un fond d'estime et même quelquefois une secrète admiration pour des hommes qui mettent en jeu leur propre vie et sans en espérer aucun avantage. Voilà, effectivement, vous voyez bien que c'est là que c'est impressionnant, parce que ça veut dire que tout peut être perverti. Le désintéressement, c'est le béaba, si j'ose dire, de toute dimension spirituelle. J'entendais un remarquable séminaire sur la spiritualité de Fabrice Midal, c'est son premier point. C'est le désintéressement, c'est le sens de la gratuité, c'est le pilier, si j'ose dire, le fondement de tout engagement spirituel. Donc, et pourtant, le fanatique qui n'espère aucun avantage est à mille lieues de toute spiritualité véritable. Vous voyez comment c'est difficile d'être humain. La même chose peut être peut relever de deux phénomènes qui sont radicalement opposés. C'est incroyable. Car nous ne sommes point fiers. Donc, vous voyez la phrase d'Alain. Donc, il y a un fond d'estime et même quelquefois une secrète admiration pour des hommes qui mettent en jeu leur propre vie et sans en espérer aucun avantage. Oui, effectivement, dans un premier temps, non, chapeau. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Car nous ne sommes point fiers de faire si peu et de risquer si peu pour ce que nous croyons juste et vrai. Effectivement, la lâcheté est quand même le régime le plus ordinaire. Et quelqu'un qui est capable de s'arracher à cette lâcheté pour défendre vraiment ce qui lui paraît juste a toujours pour nous quelque chose de fascinant. Certes, je découvre ici des vertus rares, dit Alain, qui veulent respect et une partie, au moins, de la volonté. Mais, c'est là que, évidemment, on retombe sur la critique qu'on doit évidemment faire de façon très précise du fanatisme. Mais c'est à la pensée qu'il faut regarder. Cette pensée raidie, qui se limite, qui ne voit qu'un côté, qui ne comprend point la pensée des autres, ce n'est point la pensée. Il y a quelque chose de mécanique dans une pensée fanatique car elle revient toujours par les mêmes chemins. Alors, on le voit effectivement à propos de la fameuse phrase que je suis en train de commenter, à savoir qu'on entend maintenant comme une espèce de leitmotiv, vous aimez autant la vie que nous, nous aimons la mort. Donc ça devient une espèce de cliché, une espèce de phrase mécanique, effectivement. Donc la pensée ne cherche plus, elle n'invente plus. Le dogmatisme est comme un délire récitant. Voilà. Là, on quitte complètement le chemin de l'humanité quand on passe de l'affirmation de quelque chose qui était initialement peut-être soutenu par un effort de pensée, on voit tout de suite dans quels abîmes cette pensée s'en fait, mais où tout de suite ça devient un délire récitant. Il y manque cette pointe de diamant, le doute, qui creuse toujours. Ces pensées fanatiques gouvernent admirablement les peurs et les désirs. Et là, c'est là qu'on voit d'ailleurs comment le fanatisme est une illusion de courage. Parce que le fanatisme est une manière comme une autre de régler le problème de la peur, mais une mauvaise manière. C'est un peu comme ce personnage qui se jette à l'eau, gribouille, voilà, qui se jette à l'eau pour éviter d'être mouillé. Il jette à l'eau. Et ça, c'est pas du courage. C'est-à-dire, aller au-devant de quelque chose qui vous fait peur, c'est une manière de ne pas être capable d'affronter un phénomène qui inquiétant qui s'approche et de ne pas se mettre en rapport avec lui. Donc, ces pensées fanatiques gouvernent admirablement les peurs et les désirs, c'est vrai. Mais elles ne se gouvernent pas elles-mêmes. Et non, ça n'est pas une véritable maîtrise de soi. C'est une illusion de maîtrise. Elle ne cherche pas ses vues de plusieurs points, ses perspectives sur l'adversaire. Enfin, cette libre réflexion qui ouvre les chemins de persuader et qui détourne en même temps de forcer. Vous voyez, ça c'est très impressionnant et très, vous voyez à quel point c'est d'actualité. Comment on peut croire être dans le courage alors que le courage ne force pas quiconque à adopter son propre point de vue ? Il affronte la difficulté, mais sans être dans l'imposition à l'autre d'une manière d'être, d'une manière de penser, d'une manière de faire. Bref, il y a un emportement de pensée et une passion de pensée qui ressemble aux autres passions. Autrement dit, c'est une façon de croire le fanatisme qu'on est dans l'affrontement juste de courage, du courage, alors qu'on est simplement dans une passion, et ici dans une passion aveugle. Voici donc élucider un petit peu cette confusion entre le courage et le fanatisme. Et l'on voit combien il est facile de basculer de l'un à l'autre. Et de fait, c'est le propre de la vie humaine que d'être, comme je le disais tout à l'heure, sur une ligne de crête, toujours. On est toujours entre la vie la plus parfaitement accomplie. Et on peut voir en Martin Luther King un accomplissement de ce genre, quelqu'un qui a le courage, au nom de la fraternité, au nom de la justice, au nom de l'égalité, de dire, eh bien, si je dois mourir pour cela, je vais le faire. Et là, évidemment, chapeau bas, très peu de gens sont capables de cela. Et c'est pour ça qu'on est éventuellement fasciné par le fanatique, parce que lui, on a l'impression qu'il est porteur de cela. Et bien sûr, on a perdu en réalité cela.
Cette émission était spéciale puisque nous avons diffusé le début de la chronique de Daniel Moise qui s'appelle « Tous pris dans le phénomène du nihilisme ». Cette chronique est diffusée sur le site philosophie.tv, philosophie avec un S. Nous remercions chaleureusement Daniel Moise et Bruno Vinzal qui a pris le son et la vidéo de cette chronique filmée et qui nous ont tous deux donné l'autorisation de diffuser le début de cette conférence. Nous espérons vivement qu'elle intéressera les auditrices et les auditeurs des Neveux de René et nous vous invitons à aller sur le site pour écouter la suite de la conférence où, à la façon presque d'une symphonie, partant de ses premières analyses, Daniel Moise va creuser de plus en plus la question et montrer comment la connaissance de la métaphysique, de l'histoire de la métaphysique, notamment avec des philosophes comme Leibniz, Nietzsche ou Heidegger, permet de saisir le phénomène du terrorisme dans tout son ensemble. Alors ce n'est pas pour donner une contradiction avec d'autres analyses qui seraient d'ordre géopolitique ou économique, mais c'est pour donner un autre éclairage, montrer comment tout ce phénomène-là, le phénomène du terrorisme, mais aussi celui des guerres, celui des famines, celui des différentes catastrophes qui ne cessent de se succéder les unes aux autres, peut aussi être compris et entendu à partir de la métaphysique. Merci à toutes et à tous et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec les Neveux de René, Chemin de pensée.